Radio de la Paix, il est 7h. Le journal du 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. À la une de ce 7h, deuxième réunion annuelle du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Le secteur privé ivoirien a eu un écho favorable lors de cette rencontre et vous en saurez plus dans ce journal. Et puis les communautés vivant à Sakassou ont été invitées à renforcer davantage la cohésion et la paix qui règnent dans la région. Le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République y remettait le week-end dernier des vivres et non-vivres. Dans l'actualité internationale, des dizaines de personnes ont été enlevées dans le nord-ouest du Nigeria quelques jours après le rapt de plus de 250 élèves d'une école de la même région. Les unes des journaux ivoiriens parues ce mercredi sera l'affaire de Jean-Claude Comé que nous retrouverons pour sa revue des titres. Et enfin, de journal, le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan parlera du guide d'éducation civique et politique que son centre vulgarise dans tout le pays. Docteur Flan Moké César, l'invité de la rédaction, répondra aux questions de Junior Cardin. Le comité technique du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, et les parties prenantes ont passé en revue et validé le plan d'action 2024 lors de la deuxième réunion annuelle lundi dernier à Abidjan. Cette rencontre visait donc à passer en revue le plan de travail annuel des parties prenantes du Comité national de la ZLECAF pour la validation du plan d'action 2024 en vue de son déploiement au cours de cette même année. On en sait un peu plus avec Jean-Claude Mabéa.
Au cours de cette seconde réunion annuelle, les préoccupations du secteur privé ivoirien ont été prises en compte, a rappelé Fatoumata Fofana Boundi, secrétaire exécutive du Comité national de la ZLECAF.
Nous avons effectivement eu un cadre d'échange où nous avons formalisé donc cette stratégie du secteur privé pour la ZLECAF, mais également formulé aussi une matrice d'action pour la mise en œuvre concrète pour que les entreprises ivoiriennes puissent tirer le maximum de profit de cette vaste opportunité qui nous est offerte à travers la ZLECAF.
Le directeur général du commerce extérieur, représentant le ministre du commerce et de l'industrie, a fait savoir que le plan d'action 2024 ouvre la voie aux actions envisagées pour une mise en œuvre efficace de l'accord. Khalilou Sila.
Nous voulons nous rassurer que tous les acteurs parlent le même langage, sont sur la même longueur d'onde et surtout que cette ouverture ne va pas créer des problèmes à notre économie et que nous sommes conscients des engagements que nous prenons et que nous prenons aussi des engagements et des mesures pour faire face aux mesures pénalisantes.
Faut-il le noter, le comité technique est l'organe de coordination technique et de gestion administrative du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Ce comité est chargé de conduire les réflexions sur les problématiques liées à la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAF, de contribuer à la définition des orientations stratégiques et des actions à mener en faveur de la zone.
En économie, la Côte d'Ivoire renforce son potentiel d'hydrocarbures avec la découverte d'un nouveau gisement de gaz naturel et de pétrole léger dans le bassin sédimentaire offshore du pays, découverte réalisée par la société Eni. Ce nouveau gisement, dénommé Calao, d'une capacité estimée entre 1 et 1,5 milliard de barils, est le deuxième gisement majeur découvert par cette société qui a foi aux potentialités sédimentaires de la Côte d'Ivoire, comme le souligne Serge Parfait Diouman, expert international en pétrole et énergie, joint par Jean-Claude Comé.
Avec toutes ces découvertes que nous avons, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire est poussée aux portes des grands pays producteurs émergents de pétrole. C'est-à-dire on n'est pas encore super major ni major, mais avec les perspectives qui s'annoncent grâce à ces découvertes faites par Eni, nous sommes vraiment poussés vers la porte de ces grands producteurs émergents. Et la particularité de ce gisement Calao, c'est que c'est un gisement qui se trouve dans le prolongement de la ville de Jacqueville. Mais le point particulier est que ce gisement est réalisé en eau très profonde. C'est-à-dire que de la surface de l'eau jusqu'au fond marin, nous avons un gisement qui se trouve à plus de 5 km sous terre par rapport à la surface de l'eau. Le pétrole découvert dans ce bloc offshore CI-205, c'est en fait un gisement majoritairement gazier, c'est-à-dire qui contient beaucoup plus de gaz naturel associé à des condensats et à du pétrole léger. Un pétrole léger, c'est un pétrole qui sera beaucoup plus favorable pour la production d'essence, la production de kérosène et un peu de gasoil, si on peut dire.
C'était à l'instant Serge Parfait Dioman, expert international en pétrole et énergie. Parlons d'approvisionnement des marchés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, a effectué lundi dernier une série de visites de terrain pour s'assurer de la disponibilité des stocks de produits de grande consommation. Il s'est donc rendu dans les communes de Bingerville, Cocody et Port-Boué, également à Trècheville. Nous l'écoutons au terme de sa visite.
Je suis pas vraiment satisfait. Nous avons pu noter tous ensemble, en fait, la disponibilité en abondance de produits de grande consommation, que ce soit des produits vivriers et également les produits manufacturés. L'approvisionnement en bétail sur l'année 2024 est en augmentation de 15% par rapport à l'année 2023. Donc tout ceci pour dire aux populations qu'elles n'ont pas de soucis à se faire pour la disponibilité de la viande de bœuf et de la viande de mouton, et que le prix arrêté entre les acteurs de la filière et le gouvernement est affiché et également respecté. La viande avec os à 2800 francs et la viande sans os à 3000 francs. La Côte d'Ivoire importe suffisamment de poissons. Nous importons en moyenne environ 600 000 tonnes de poissons par an. Et nous avons visité ensemble un entrepôt qui contient au moins 6 000 tonnes.
Vous écoutez le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra Souba. Prenons la direction du centre de la Côte d'Ivoire, où le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi Emmanuel, fils de la région, a invité les communautés à renforcer davantage la cohésion et la paix qui règnent à Sakassou. C'était le week-end dernier à l'occasion d'une cérémonie de remise de dons de vivres, non-vivres et numéraires qu'il a initiée au profit des confessions religieuses. Témoin pour Radio de la Paix, notre correspondant, Joseph Assalé.
Il y a quelques années, un conflit a secoué la ville de Sakassou. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les différentes communautés ethniques et religieuses ont réappris à vivre ensemble, comme le témoignent ici certains habitants de la capitale du royaume Walebo. Imam Cissé Mohamed Lamine, président du Forum des confessions religieuses.
Les différentes communautés religieuses, chrétiens, musulmans, on s'entend très bien. Moi-même qui suis là, c'est les chrétiens même qui m'ont mis à la tête de cette organisation. Ça fait plus de 5 ans que je dirige cette organisation. Ça veut dire que nous sommes en bonne symbiose, on partage toutes les choses ensemble.
Traoré Siaka de la jeunesse communale.
Ici à Sakassou, les communautés vivent en bonne intelligence et à parfaite entente. Je suis même le fruit de ce brassage-là. Mon papa est de Tengri-là, ce nouveau Djula, et ma maman est de Walebo Sakassou même.
Le préfet de Sakassou, Bonaventure Thiebé, se félicite lui aussi de la coexistence pacifique qui règne entre les différentes communautés. Toute chose qui souligne-t-il favorise les investissements au profit des populations.
Les différentes communautés vivent en bonne intelligence. Nous tirons de cela vraiment les actions de développement dont nous sommes bénéficiaires largement parce que le climat s'y prête.
À l'occasion d'une cérémonie de remise de vivres, de non-vivres et de numéraires aux communautés religieuses, Aoutou Kofi Emmanuel, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, a invité les leaders à maintenir la flamme de la cohésion et du vivre ensemble. Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix.
Sur la question de l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, l'OIT veut pallier le manque de lien entre les institutions de formation et les entreprises afin de permettre une synergie de partenariat école-entreprise. À cet effet, des membres des comités de branche professionnelle sur la mise en place du dispositif de développement de l'apprentissage sont en atelier pour 4 jours à Grand Bassam, et ce depuis hier mardi. Junior Cardin nous en fait le point.
Le support sur lequel va s'articuler cette formation est la recommandation 208 de l'OIT sur les apprentissages de qualité, au dire de Ndeye Koumba Diop, directrice du bureau pays de l'institution onusienne.
Cette recommandation est un outil qui vise à soutenir les possibilités offertes aux personnes de tout âge d'acquérir des compétences, de se recycler et de se perfectionner en permanence sur les marchés du travail en rapide évolution. Elle fournit une définition claire des apprentissages, spécifie les normes ambitieuses pour les apprentissages de qualité, y compris les droits et la protection des apprentis.
Cet atelier est le bienvenu, selon le représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui a déjà engagé un partenariat avec les ordres d'enseignement, Édouard Ladouyou.
Nous travaillons en partenariat à travers les conventions que nous avons signées pour objectif de rendre opérationnelles les compétences qui sortent de ces ordres d'enseignement. Parce que la critique formulée par le secteur privé, c'est que les produits de ces ordres d'enseignement sont inadaptés aux besoins de l'entreprise.
La formation s'inscrit dans le cadre du projet Génération sans limite. Son coordonnateur, Roland Bissier.
L'axe de l'OIT, principalement, c'est d'inciter le secteur privé à offrir des opportunités d'insertion aux jeunes. Mais dans ce cadre-là, on renforce aussi les capacités sur certains points. Parce que les employeurs se plaignent beaucoup que les compétences qu'ils recherchent ne sont pas compatibles à celles des instituts de formation. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons en fait cette activité.
33 membres des organisations représentatives des employeurs et des comités de branches professionnelles sur le processus d'opérationnalisation d'un apprentissage de qualité sont concernés par cette formation.
Dans l'actualité, hors des frontières ivoiriennes, des hommes armés ont enlevé mardi des dizaines de personnes dans l'état nigérian de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Quelques jours après le rapt de plus de 250 élèves d'une école de la même région, ont rapporté deux représentants locaux et une source aux Nations Unies. Selon le conseiller local Aboubakar Bouda, des hommes armés ont pris d'assaut un village du district de Kajourou hier matin et sont passés de maison en maison pour enlever des habitants. 32 femmes et 29 hommes ont été kidnappés, a indiqué le député du secteur Ousmane Danlami Istingo. Et puis de retour ici dans le studio de Radio de la Paix pour retrouver Jean-Claude Comé qui est déjà bien en place pour sa revue des titres. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Linda, bonjour à tous. On en sait un peu plus sur les causes de la mort massive des poissons dans la baie de Bétry. Eh bien, le CIAPO, le Centre Ivoirien Anti-Pollution, a livré les résultats de ses enquêtes. Voici ce qui a tué les milliers de poissons à Bétry, annonce le nouveau réveil Le Mandat, qui ne nous disent pas à l'heure une, en tout cas, ils ne donnent pas plus de précisions sur les causes réelles de la mort de ces poissons. Néanmoins, le second journal cité relaie une mise en garde du ministre de l'Environnement, Assaoré Konajak, qui déclare que la lagune ne doit pas être le réceptacle de toutes les ordures. En effet, selon Fraternité Matin, ce sont les eaux usées et les déchets déversés dans la lagune qui sont les vraies causes de cette mort massive des poissons à Kumasi, une commune dont le maire et ses pairs des 13 communes du district d'Abidjan ont échangé hier avec le ministre gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, rapporte Le Matin, qui qualifie la rencontre de fructueuse. Le Nouveau Réveil titre, pour sa part, les 13 maires d'Abidjan et Cissé Bakongo se sont expliqués pendant des heures. Soir Info relève pour plus de précision les propos de Bakongo qui déclare que l'échange a permis de clarifier les zones d'ombre qui existent et quand le maire Amichia, maire de la commune de Trècheville, donne une idée de ce que chaque maire a exposé. Pour notre voix, Bakongo et les maires s'accordent sur la politique d'assainissement du district d'Abidjan. L'intelligence d'Abidjan nous apprend qu'après cette seconde rencontre, Bakongo et les 13 maires se donnent un autre rendez-vous à Port-Boué. L'actualité politique intéresse aussi les confrères de la presse qui reviennent pour certains sur la rencontre entre Alassane Ouattara et Tidiane Thiam. Le Matin se demande si après cette rencontre entre les deux acteurs politiques, la rivalité a-t-elle encore un sens entre le RHDP et le PDCI, ce à quoi semble répondre le Nouveau Réveil par ce titre. PDCI, RHDP, ni rapprochement, ni projet d'alliance, ni deal. Et puis l'obsèque de l'ex-président Henri Konan-Bédié intéresse Fraternité Matin qui indique que déjà Daoukro, sa ville natale, se mobilise quand le temps nous informe que l'annonce du calendrier a été officiellement faite hier à l'ex-président Laurent Gbagbo. Merci.
Merci à vous Jean-Claude Comé pour cette revue des titres dans l'édition de 8h. Vous serez de retour pour le même exercice. À présent, l'invité de la rédaction pour refermer ce journal, c'est le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Il ouvre une lucarne sur le guide d'éducation civique et politique que son centre vulgarise à travers le pays. Docteur Flan Moké-César est interrogé par Junior Cardin.
Docteur Flan Moké-César, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le Centre de recherche politique d'Abidjan vulgarise son guide d'éducation civique et politique. Quelle est l'opportunité de ce guide?
Depuis mai 2022, le Centre de recherche politique d'Abidjan travaille à la question de la construction ou de la consolidation de la nation ivoirienne. C'est un projet que nous menons avec le soutien de la Fondation américaine National Endowment for Democracy, NED, et il s'agissait dans la première phase d'organiser des séminaires de renforcement des capacités à l'endroit des jeunes, responsables de la société civile, des associations religieuses, des associations étudiantines, etc. Et en plus de cela, il s'agissait également d'organiser des panels autour des défis inhérents à la construction ou à la consolidation de la nation ivoirienne. Et à partir de cela, nous avons enregistré les différentes perceptions, les espoirs des uns et des autres, mais également les craintes, les attentes et tout ce qui est en lien avec la stabilité de la nation ivoirienne. À la faveur de cette première année, nous avons écrit un document d'éducation civique et politique. Ce document-là s'inscrit dans le cadre de ce projet, mais il vise surtout à travailler à l'unité nationale, donc faire en sorte que le sentiment d'appartenance à une même communauté de destin, c'est-à-dire à la nation ivoirienne, soit le sentiment le plus fort au-dessus de tous les autres sentiments que sont la région, la religion, l'ethnie, l'appartenance politique, etc.
Mais de façon concrète, ce guide, quel est son contenu?
Il faut rappeler que le titre de ce document, c'est « Fragilisation du tissu social et dynamique de reconstruction nationale en Côte d'Ivoire ». Donc nous avons relevé dans un premier temps les défis auxquels la consolidation de la nation est confrontée, c'est-à-dire les différentes situations de crise que nous avons connues qui ont consisté à fragiliser le tissu social. Dans un deuxième temps, nous avons présenté les différents efforts qui ont été consentis par le gouvernement et tous les acteurs en vue de la réconciliation nationale. Donc nous avons présenté des mécanismes comme la CDVL, la CONARIV, pour ne citer que cela. Et en fin de compte, nous avons fait des propositions en vue de la consolidation de la nation ivoirienne.
Et parlant des séminaires et autres études, vous avez cité abondamment la jeunesse. Vous n'allez quand même pas nous dire que la jeunesse est la seule destinataire de ce guide?
Bien, disons que de façon générale, c'est un guide qui est adressé à tous, aussi bien aux décideurs politiques, aux acteurs politiques et institutionnels, aux acteurs de la société civile, à la population, à tout le monde. Mais nous avons ciblé la jeunesse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que aujourd'hui, au regard du recensement général de la population et de l'habitat, le tout dernier, les jeunes constituent 75,6% de la population. Nous partons aussi du constat que ce sont les jeunes qui sont capables de construire ou de construire la nation. Et les différentes crises auxquelles nous avons assisté le révèlent très bien. C'est pourquoi nous nous sommes adressés spécifiquement à la jeunesse, mais le contenu de ce document est destiné à tous.
Et comment acquérir ce guide?
Pour l'instant, nous avons encore des activités à faire. Donc, après l'activité de Gagnoua et de Yamoussoukro, nous nous rendrons à Bangourou, puis à Kourougou. Nous nous rendrons aussi à Séguéla et à Man. Et à la suite de tout cela, nous allons publier le document par voie numérique. Mais il existe également la version physique des documents qu'on peut avoir au niveau du Centre de recherche politique d'Abidjan.
Et là, vous citez la localité à visiter pour peaufiner le document. Quelles sont celles déjà parcourues?
Nous avons parcouru au total 7 localités dans la première phase, donc dans la première année du projet. Et dans la deuxième année du projet, qui a commencé en septembre dernier, nous avons visité 3 localités. Il nous en reste encore 4.
Quand vous expliquez ce guide, ce qui revient régulièrement tourne autour de la nation.
Oui, je pense que la nation est l'élément central et tout progrès va s'appuyer aujourd'hui sur la nation. Nous savons bien que, historiquement, pour ce qui concerne notre pays, l'État a précédé la nation. Puisque la nation est une forme éprouvée, le sentiment d'appartenir à une même communauté de destin, et nous nous sommes rendus compte qu'à une certaine période, la nation a été fortement fragilisée, ce qui a valu des divisions sociales, des conflits intercommunautaires que nous avons connus. Donc ce guide-là prend pour appui ce contexte de fragilisation du tissu social et fait des propositions en vue d'une nation ivoirienne stable, capable de résister à tous les courants.
Et en attendant la sortie de ce guide, quel est votre message à l'endroit des populations ivoiriennes?
Comprendre tout simplement que nous sommes une diversité culturelle, ethnique, du point de vue des convictions politiques, diversité religieuse et j'en passe. Mais au-delà de ces différentes formes de diversité, nous devons avoir pour priorité la nation ivoirienne qui doit porter en réalité toute cette diversité-là. Donc c'est d'agir agir de sorte à ne pas fragiliser le tissu social, l'unité nationale et la consolidation de la nation doit être une priorité pour tout un chacun.
Donc, le guide d'éducation civique et politique ne vient pas comme un document de plus, mais il apporte son poids à l'édification de la nation ivoirienne.
En effet, nous pensons que c'est une humble contribution à l'édification de la nation ivoirienne pour le simple fait que nous constatons que nous en avons besoin.
Docteur Flamoke César, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
C'était Dr. Flan Moquet César, invité de la rédaction. Il était interrogé par Junior Cardin. Cette rubrique met fin à notre édition dont voici le rappel des titres. La deuxième réunion annuelle du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, le secteur privé ivoirien, a eu un écho favorable lors de cette rencontre. Et puis les communautés vivant à Sakasso ont été invitées à renforcer la cohésion et la paix qui règnent dans la région. Le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République y remettait le week-end dernier des vivres et non-vivres. Dans l'actualité hors des frontières ivoiriennes, des dizaines de personnes enlevées dans le nord-ouest du Nigeria quelques jours après le rapt de plus de 250 élèves d'une école de la même région. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à 8h.